Chapitre 7. Luc vient de relater que le Seigneur a choisi ses 12 apôtres, puis qu'il leur a donné des enseignements qui concernaient spécialement l'esprit de grâce et la réalité qui devait les caractériser. Nous constatons qu'il ne les envoie pas immédiatement en mission, mais qu'il les retient auprès de lui afin qu'ils continuent à apprendre de lui, et par ses paroles, et par ses actes. L'envoi des disciples n'a pas lieu avant le début du chapitre 9. Nous avons déjà remarqué comment cet évangile se caractérise par le déploiement de la grâce. Ce chapitre poursuit le sujet en montrant d'une manière saisissante jusqu'où elle se déploie. La bénédiction va atteindre les gentils, les morts, les dépravés. De plus, la manière dont on reçoit la grâce est clairement révélée. C'est par la repentance et par la foi. Le premier cas rapporté est celui du gentil. En envoyant les anciens des Juifs intercéder pour lui, le centurion montre qu'il accepte sa place parmi ceux qui étaient sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Éphésiens 2, verset 12. Les anciens, fidèles à l'enseignement reçu de la loi, auraient absolument annulé la grâce en présentant le centurion comme étant digne. Son mérite, d'après eux, résidait en ce qu'il montrait de la bonté, par son attitude et par ses actions, envers le peuple juif. C'était tout à fait typique de l'esprit juif. Au lieu de voir comment leur propre loi les condamnait, ils la considéraient comme un honneur qui leur était conféré. Ils étaient pleins d'eux-mêmes. Ils faisaient d'eux-mêmes, et de la manière dont on les traitait, la mesure d'après laquelle ils jugeaient les autres. À leur estimation, ce gentil était un homme digne. Cependant, le centurion lui-même n'avait pas d'illusion sur ce point-là. Il confesse qu'il n'est pas digne, et manifeste ainsi un esprit de repentance. En même temps, il montre une foi remarquable en la grâce et en la puissance du Seigneur. Il occupait un rang subalterne dans la hiérarchie militaire de Rome, pourtant son pouvoir était absolu dans son cercle restreint. Il discerne dans le Seigneur quelqu'un qui détenait l'autorité dans un domaine autrement plus vaste, et il a confiance qu'une parole du Seigneur opérerait le résultat souhaité. Nous devrions tenir le même langage. Il suffit que le Seigneur dise une parole, il ne nous faut rien de plus. La foi, qui prend tout simplement Dieu au mot, sans qu'il soit besoin de raisonnement, de sentiment ou d'expérience, est une grande foi selon notre Seigneur. Nous voyons, de plus, comment la foi et la repentance sont intimement liées. Elles vont de pair. Du cas du centurion, nous passons à celui du mort que l'on portait à sa tombe. Ici, la foi n'est plus du tout visible. Les compassions et l'activité du Seigneur remplissent la scène. La grâce et l'autorité se déploient d'une façon égale et harmonieuse. La compassion divine brille dans ses paroles « Ne pleure pas » que le Seigneur adresse à la mère affligée. Son autorité se manifeste en ce que, dès qu'il touche la bière, tout le cortège funèbre s'arrête. Puis, sa parole de puissance ramène le jeune homme à la vie. Ici, nous avons quelqu'un qui parle et les morts lui obéissent. Je te dis, lève-toi. Qui est ce « je » Nous pouvons bien nous poser cette question. Les gens manifestement se la sont posés et ont conclu que Dieu avait suscité un grand prophète parmi eux. Les nouvelles de ces faits se répandent et arrivent jusqu'à Jean-Baptiste dans sa prison. Or, en ce temps-là, l'esprit de Jean était obsédé par cette question « Qui était-il après tout ?» Aussi, l'incident concernant les messagers de Jean survient-il à propos dans les circonstances du moment. Les versets 19 à 35 semblent être une sorte de parenthèse. Ils nous montrent que le déploiement de la puissance exercée en grâce, et non pas en pompe extérieure, est la preuve de la présence du Messie. Il est permis aux messagers de Jean d'être témoins d'abondantes preuves de ce pouvoir en grâce. Il le voit faire ce que Ésaïe 61, verset 1, qu'il avait lu dans la synagogue au chapitre 4, avait prédit. C'était une preuve suffisante pour montrer qui était Jésus. Puis, se tournant vers les foules, une fois les messagers de Jean partis, Jésus fait remarquer que Jean lui-même, son précurseur, n'avait pas été un personnage insignifiant et n'était pas venu non plus dans la pompe et l'opulence. Sa mission tout entière avait été en parfaite harmonie avec le caractère de celui qu'il annonçait, qui était infiniment grand et pourtant venu en humilité et en grâce. Jésus appelle Jean un prophète si grand qu'il n'y en eut jamais de plus grand. Immédiatement, cela montre à l'évidence que lorsque la foule parle de Christ lui-même comme d'un grand prophète, il reste bien en dessous de la vérité le concernant. En ce qui concerne Jean, quoiqu'il fût si grand, le moindre dans le royaume de Dieu à venir serait plus grand que lui, non pas moralement, mais dans la position qui serait sienne. Moralement, Jean était très grand en vérité, et son témoignage était d'une telle importance que la destinée des hommes se trouvait fixée par leur attitude envers lui. Les publicains et les pécheurs l'acceptent, et ainsi, justifiant Dieu, sont finalement conduits à Christ. Les pharisiens et les docteurs de la loi le rejettent, puis le moment arrive où ils rejettent Christ. Ce verset 28 ne peut se comprendre que lorsque nous faisons la distinction entre cette grandeur morale qui dépend du caractère d'un homme et la grandeur qui provient de la position à laquelle Dieu peut se plaire à nous appeler et qui varie suivant les dispensations. Le Seigneur donne ensuite, dans une courte et remarquable parabole, le caractère de la génération incrédule qui l'entoure. Ces gens ressemblent à des enfants irritables à qui rien ne convient. Ils n'acceptent ni ce qui est plaisant, ni ce qui est grave. De la même manière, les Juifs ne veulent pas s'incliner devant le témoignage incisif de Jean, ni se réjouir dans le ministère de grâce de Jésus. Ils accusent l'un d'être possédé par un démon et blâment l'autre à tort. Malgré tout, il y a ceux qui perçoivent la sagesse divine de ces deux témoignages. Ceux-là sont les vrais enfants de la sagesse. Tout ceci est illustré d'une manière remarquable dans l'incident qui clôt ce chapitre. Simon le pharisien faisait partie des gens qui critiquaient, que rien ne contentait, bien qu'il invite Jésus à un repas chez lui. La pauvre femme de la ville faisait partie de ceux qui rendaient justice à Jésus, et, de ce fait, elle montre qu'elle est une vraie enfant de la sagesse. Aussi elle-même est justifiée. La douleur et la contrition de cette femme ne touchent pas l'orgueilleux pharisien. Content de lui-même, il critique secrètement Jésus, lui attribuant les sentiments qu'il aurait envers une telle personne. En conséquence, il est sûr que Jésus n'est pas du tout un prophète. Le verset 16 nous a montré qu'au moins les gens du commun pensaient que Jésus était un prophète, même un grand prophète. Simon n'en est pas là. Eux percevaient une lueur. Lui était complètement aveugle, car une religion fausse est la chose la plus aveuglante qui soit sur terre. Cependant, le Seigneur va donner rapidement à Simon un exemple du grand pouvoir de prophétie qu'il possède. Simon ne fait que dire en lui-même. Il pensait que Jésus n'avait aucun discernement quant à cette femme. En lui exposant la parabole des deux débiteurs, le Seigneur lui montre immédiatement qu'il connaissait son hypocrisie et lisait ses pensées secrètes. Un des débiteurs avait des dettes 10 fois plus grandes que l'autre. Pourtant, puisqu'aucun d'eux n'a de quoi payer, tous deux sont également en faillite. Et le créancier les traite de la même manière. La grâce remet ses dettes à chacun. Le but de cette parabole est de faire comprendre à Simon que, quoique ses péchés soient peut-être moins nombreux que ceux de la femme, lui aussi est complètement insolvable et a besoin de la grâce qui pardonne et remet les dettes, tout comme elle. Or, habituellement, les débiteurs n'aiment pas leurs créanciers. Pourtant, un sentiment de la grâce qui pardonne provoque bien l'amour. Et même Simon savait porter un jugement juste à ce propos. Mais alors l'application en est facile. Simon s'était gardé volontairement de montrer au Seigneur les attentions les plus élémentaires que demandaient les coutumes de l'époque. Ni l'eau pour les pieds, ni le baiser de bienvenue, ni l'huile pour la tête n'avaient été offerts. Simon avait reçu le Seigneur d'une manière qui équivalait à un affront. Mais la pauvre femme avait suppléé en abondance à tout ce qui manquait. Simon n'avait aucun sentiment de culpabilité et pas d'amour pour celui qui venait dans la grâce du pardon. La femme, elle, ressentait une repentance réelle et profonde, ajoutée à la foi en Jésus et à un amour fervent pour lui. Ainsi voyons-nous comment la grâce se répand envers les dépravés, et de nouveau comment la repentance et la foi vont de pair. Elles sont comme l'avers et l'envers d'une même pièce de monnaie. La grâce qui jaillit vers cette femme est d'autant plus saisissante en ce qu'elle l'atteint d'une manière purement spirituelle. Celle-ci n'était pas venue avec des maux et des misères physiques à guérir. Ses maux étaient spirituels. Son fardeau était celui de ses péchés. La grâce lui accorde le pardon en abondance. C'est ce que le Seigneur dit clairement à Simon. Mais le Seigneur ne parle pas aux pharisiens seuls du pardon qu'il accorde à la femme. Il le lui annonce personnellement à elle. Quel baume pour son esprit lassé ont dû être ces quatre mots « Tes péchés sont pardonnés ». Les saints de l'ancienne économie apportaient le sacrifice approprié pour chaque délit ou pour chaque péché, et savaient alors que ce péché particulier était pardonné. Ils ne connaissaient guère une absolution aussi complète que celle que les paroles de Jésus donnèrent à cette femme. Ceux qui étaient là pouvaient bien demander « Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés ?» Dieu, dans la plénitude de la grâce, était présent dans le Sauveur abaissé. Non seulement Jésus pardonne à la femme, mais il lui donne l'assurance du salut et de plus déclare que sa foi en a été le moyen. S'il n'y avait pas eu cette parole, elle aurait pu croire que son chagrin ou ses larmes lui avaient procuré le salut, mais non. C'est la foi qui établit le contact absolument nécessaire avec le Sauveur qui apporte le salut. Elle peut vraiment aller en paix, car elle n'a pas simplement reçu le pardon, qui couvrait tout son passé, mais le salut, ce qui signifiait délivrance du mal qu'il avait asservi. C'est cela que la grâce accomplit.